Vous êtes sur la zone payante, un podcast de Cube Radio. Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Stéphane Cadaret. Allô? OK.
Bonjour.
On commence avec le sifflette, parce que c'est la période de questions, mon cher Steph.
Yes, on est prêt.
On va commencer par la question de M. Rusovski, un de nos fidèles auditeurs, et qui pose la question sur ce qui a été le talk of the town après le repêchage. Que pensez-vous de la stratégie des Falcons après l'embauche de Kirk Cousins de prendre un choix top 10 pour un QB, mais qui a du potentiel, mais qui est déjà plutôt âgé? C'est vrai, Michael Penix, il n'y a pas 21 ans.
Ouais.
Et le fait d'apprendre derrière un vétéran pendant quelques saisons. Écoute, j'en ai vu de toutes les couleurs dans les analyses. Il y a du monde qui pense que c'est le pire move qu'ils ont vu de leur histoire d'analyste. Il y en a d'autres qui pensent que dans 2 ans, il va être prêt, il va être bon. C'est de toute façon le nombre d'années garanties que Kirk Cousins. Mais moi, je veux ton analyse, Steph.
Ben, moi, la clé dans la question de notre ami Rusovski, c'est choix top 10. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ah, regardez les Packers, ils l'ont fait 2 fois, puis c'est une stratégie qui fonctionne. Ce qui était différent du côté des Packers, c'est qu'ils ont pris Rodgers quand il y avait Brett Favre avec le 25e choix, quelque chose comme ça, puis ils ont pris Jordan Love quand il y avait Rodgers avec le 26e choix. Là, les Falcons sont 8e, ils ont l'occasion vraiment de repêcher un joueur qui peut faire une énorme différence. Si tu tiens à Penix, est-ce que tu devrais pas te reculer, accumuler des choix? Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais les Raiders l'auraient pris, les Broncos l'auraient peut-être pris. Je le sais, ça se peut. Moi, personnellement, écoute, tu viens d'investir autant en Kirk Cousins, c'est que tu penses que c'est le corps arrière qui peut t'amener à terre promise ou en tout cas très proche. Essaie vraiment de l'entourer de toutes les munitions imaginables, que ce soit en attaque, en défense, peu importe, là. Mais moi, personnellement, je le comprends pas, le move. Je sais qu'il y en a qui disent aussi, ouais, mais avec Cousins, justement, les Falcons repêcheront pas dans le top 10, là, pendant les prochaines années. Aussi bien frapper maintenant pour le corps arrière. Moi, je le vois pas comme ça, personnellement. Là, je sais pas toi, Jean-Nic, mais moi, ça me rentre pas dans la tête.
Ouais, avec tout ce qui se passe dans une pré-saison, dans une saison, si t'es un bon joueur, tu y crois, tu le prends, là. T'sais, Kirk Cousins, là, il va-tu retrouver la forme qu'il avait avant d'être blessé? Il a 36 ans. Écoute, si on va le voir, si Michael Penix il fait des flamèches, ils n'auront que Cousins sur le banc comme police d'assurance dans 2 ans. Non, mais tu sais, ouais. On poursuit avec Danny qui dit « Salut les boys, pouvez-vous me donner votre analyse de Xavier Worthy repêché par les Chiefs? Bien hâte de vous écouter cette semaine. Ben nous voici, mon cher Danny. »
OK, ben je vais y aller quand même vite parce qu'on en a parlé pas mal de Worthy tantôt, mais tu sais, ce que je veux que les gens retiennent, c'est que c'est pas juste le gars qui a une vitesse folle sur un go, là, sur un tracé au fond du terrain. Il peut faire plusieurs tracés. Il y a des bons changements de direction. Il y a une accélération qui est vraiment phénoménale. Le bémol dans son cas, on va le répéter, 165 livres.
Hugo, espérons que votre repêchage de NFL s'est déroulé comme vous vouliez. Pas trop sûr de comprendre la stratégie des Bills.
Ben j'imagine qu'Hugo fait allusion au fait qu'ils sont sortis de la première ronde, qu'ils ont reculé. Il y en a plusieurs qui disaient les Bills vont s'avancer pour aller chercher un des top receveurs, mais eux autres, fort probablement, qui ciblaient Keon Coleman de toute façon. Ils se sont dit qu'Keon Coleman n'a pas nécessairement la cote en première ronde. Moi, j'ai pas détesté ce qu'ils ont fait, au contraire. T'accumules quelques choix, quelques éléments. Puis il faut pas oublier une chose, les Bills ont perdu plusieurs joueurs là sur le marché des joueurs autonomes, sans parler de reconstruction. Tu sais, c'est une équipe qui devait combler plusieurs trous. Fait que quand tu peux accumuler du capital comme ça, moi, je vois pas de problème dans leur situation.
Alexis, si on ne prend pas en compte les QB, quel est le top 3 des joueurs qui vont laisser leur marque dès leur première saison?
OK, je me lance. Marvin Harrison Jr., ça, c'est vraiment pas une grosse surprise. Là, je pense qu'il va faire exactement ce qu'on prédit de lui. Grosse saison dès son année recrue. Je vous en ai glissé un mot tantôt. Audric Estime à Denver, porteur de ballon. Je pense que dans la cuvée de cette année, c'est peut-être lui qui est le mieux tombé, ah oui, qui va le plus faire sa marque. Ouais. Et je voulais y aller avec un porteur de ballon, un receveur, puis un joueur défensif. Et c'est là que je vais avoir l'air du gars qui prêche pour sa paroisse. Dallas Turner à Minnesota. Très bonne saison.
Pierre nous dit, est-ce que Chicago va jouer dès cette année en haut de 500 et que se passe-t-il à Dallas?
Que se passe-t-il à Dallas? Ben écoute, je comprends pas moi non plus. On n'a pas l'impression que l'équipe était pas si loin du but l'an passé. Puis on a l'impression que c'est sur le cruise control plutôt que, écoute, on va peser sur le gaz, puis on va être agressif, puis on va aller chercher les petits morceaux ici et là qui nous manquent. Comme on a pu voir dans les dernières années, les Bengals ont fait des gros moves, les Chiefs, les Bills, les Dolphins, je dirais. Tu sais, il y a plusieurs équipes là qui se sont battues pour vraiment là, aller chercher la petite coche de plus. Puis on a l'impression que les Cowboys font comme, bah, ça va bien, on approchait, puis on va voir. Puis non, ça, j'aime vraiment pas ça non plus, je me l'explique pas là. Puis les Bears, oui, rapidement, moi je pense qu'ils peuvent jouer en haut de 500. Ils ont fini 7 et 10 l'année passée, puis oubliez pas, il y a eu des blessures au poste de corps. Tu sais, c'était inconstant, Justin Fields, Tyson Bagent. Là, t'as un corps arrière plus stable, je pense, qui va s'amener. Il manquait de receveurs, on a clairement amélioré cette lacune-là. Pour moi, les Bears deviennent candidats sérieux pour les playoffs.
Simon qui nous dit, j'ai adoré la stratégie des Falcons. Prendre le temps de développer et une bonne assurance au cas. Mais un top 10, c'est cher quand même, considérant qu'environ 50% sont des top 10. Les top 10 sont des flops.
Ben ouais, je comprends cette vision-là, mais le problème dans l'expression prendre le temps de développer, c'est que ton corps arrière vient d'avoir 24 ans ou il va l'avoir cette semaine. Ça veut dire qu'après les garanties de Kirk Cousins, il va tomber à 26. Là, tu lui donnes une saison, mettons, là, à la Jordan Love pour commencer à s'adapter tout. Tu veux dire qu'il va être vraiment bon à partir de 27 dans le meilleur des scénarios? Puis là, son deuxième contrat va tomber à 29. C'est là que j'ai un petit problème avec la notion de prendre le temps de développer, alors qu'un corps arrière comme ça, pour moi, il y a une certaine urgence. Oublions pas que Penix a un historique médical important. Là. Ça, on n'en parle pas depuis tantôt dans le débat. C'est un gars qui a eu plusieurs blessures importantes qui ont coupé là, quelques saisons. C'est pas parce qu'un gars s'est blessé qu'il va toujours se blesser, mais t'as pas le choix de le considérer dans l'évaluation.
Parce que Kirk Cousins aussi s'est blessé. Là. C'est ça aussi qui est dans l'évaluation.
Oui, effectivement, les Falcons, je comprends, ils veulent pas revivre une situation à la Desmond Ridder, Tyler Heinicke, Marcus Mariota. Tu sais, ça a pas été des belles années. Je le comprends. Je pense que c'était comme, OK, on attaque vraiment ce problème-là. Je peux respecter ça. Je me demande si... avec l'âge de Phoenix, puis le rang où ils l'ont pris, c'était la chose à faire.
Nicolas nous dit, pensez-vous que les Bengals vont faire jouer Mims à l'intérieur cette saison pour lui donner de l'expérience NFL, lui qui n'a pas joué énormément en NCAA, comme tu disais tout à l'heure?
Ouais, moi je pense plus qu'ils vont le laisser derrière Trent Brown une saison. Trent Brown, ça a été l'acquisition là, sur le marché des agents libres pour les Bengals. On sait que t'as Orlando Brown qui est le bloqueur à gauche, qui est quand même bien enclenché là. Mais Trent Brown, c'est une solution à très court terme, qui peut se blesser aussi. Là, tu te retrouves avec Mims dans la mêlée plus rapidement que prévu. Mais je pense là effectivement que la stratégie va plus d'être... Là. Non, je pense pas. Puis tu sais, ils sont pas mal placés là, les Bengals en ce moment en termes de garde personnellement. Fait que je pense que ça va être, on apprend sur le banc un peu, puis on va arriver éventuellement d'en mêler après Trent Brown.
Tommy qui nous dit, entre Xavier Worthy et Keon Coleman, qui a gagné l'échange entre les Bills et les Chiefs? Parce que les Bills ont tradé pour laisser passer les Chiefs en avant d'eux.
Ouais, c'est ça, c'est dur de dire qui a gagné pour l'instant, mais tu sais, moi, comme je disais tantôt, quand les Bills peuvent accumuler quelques choix, vu les trous qu'il y avait soudainement dans leur alignement, pourquoi pas? Worthy est un nom qui est clairement plus le flashy, là, tu sais, on dirait que tu dis parce qu'il est rapide, parce qu'il court le 40 verges en 4.2 secondes, tu sais, c'est big, mais ça veut pas dire qu'à long terme, il va être meilleur que Coleman pour autant. Il n'y a pas juste la vitesse dans la vie. Mais Coleman, la seule question, comme je le mentionnais tantôt, c'est est-ce qu'il va être capable de vraiment se démarquer de ses demi de coin? Mais c'est un gars qui peut être très physique, qui va en imposer. Puis je pense que Josh Allen va trouver une façon de le faire fonctionner.
Et quelle personnalité, moi je l'adore.
Et voilà.
Eric, je ne comprends pas que les Niners n'ont pas repêché un O-line qui est leur faiblesse. Je sais bien qu'ils vont se départir de Ayuk, mais pas de là à négliger cette faiblesse. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, ben moi je le mettais, je leur mettais un O-line dans mon mock draft, mais tous ceux là qu'on voyait sortir en première ronde sont pas mal sortis. Il n'y a pas eu de surprise majeure là, du côté des O-line, puis ils sont tous sortis. Les Niners parlaient quoi, 31? Est-ce qu'ils se sont dit, ben là, faut quand même y aller avec un O-line en première ronde? Non, tu sais, ils ont été avec Purcell en prévision, comme je le disais, d'un échange éventuellement tantôt. Mais là, après, est-ce que les Niners ont drafté plus tard dans le repêchage un O-line? Ouais, ils ont repêché Dominic Pioney, qui est un garde, Jared Kingston, qui est un plaqueur, mais beaucoup plus tard. Effectivement, là, qui aurait pu attaquer peut-être ce problème-là un peu plus tôt, mais je comprends quand même la stratégie en première ronde là, d'opter pour une autre position.
C'est terminé pour la période des questions, Steph. On vous invite à communiquer avec nous si vous le voulez. Vous pouvez nous interpeller sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire partie de notre groupe, nos précieux conseils de fantasy football là, qui vont reprendre un peu de vie après la pause. Mais vous pouvez quand même participer, vous pouvez nous poser des questions pendant la saison morte, puis vous pouvez partir des sujets, ça nous fait plaisir d'en débattre avec vous. Vous pouvez aussi donc nous interpeller sur des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, j'ai dit, mais vous pouvez aussi nous écrire par courriel à quelle adresse, Steph?
La zone payante à commercialquebecormedia.com.
Merci, Steph. Tantôt, tu m'as dit, j'aurais une dernière, parce qu'il n'y aura pas de bar cette semaine, pas de bar.
Ouais.
On est en pause, les terrasses sont pas encore ouvertes.
Non, ça s'en vient. Comment ça faire
pour l'instant, mais tu m'as dit j'ai de quoi pour toi en fin d'émission.
Ah, juste un petit quickie là, parce que je trouve ça plate. Si j'envoyais quelqu'un au bar cette semaine, c'est les fameux insiders de la NFL qui font très très bien leur travail, je dois le dire là, mais pendant le draft, nous notre trip comme fan, c'est de regarder ça, et de se dire qui va être repêché. Puis là, il y en a tout le temps un ou deux qui peut pas résister à l'envie de dire « Hey, savez-vous quoi? Les Bills s'approchent, puis ils vont prendre tel joueur. Puis savez-vous quoi? Les Falcons, c'est lui qui repêche. » C'est-tu obligatoire? Un événement télévisuel comme ça, c'est un peu long par moment. Ça se déroule quand même lentement, le repêchage. Le gros trip qu'on a, c'est de découvrir en même temps que tout le monde qui va repêcher qui. Puis finalement, ben il y a tout le temps un insider plus smart que les autres qui va écrire sur Twitter. Bon, ben là, c'est tel pic qui s'en vient. Je trouve ça plate. Il faisait beaucoup avant, il faisait presque plus depuis dans les dernières années. Il y avait comme eu un genre de consensus où, OK, c'est pas le moment là de montrer nos talents d'informateur. Puis là, ça recommence un peu cette année. Moi, c'est au point qu'à un moment donné, au milieu où... Je sais plus trop quand, là, mais en première ronde, j'ai fermé ça. J'ai regardé juste à la télé parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est pas le moment de faire ça. C'est juste ça que je voulais te dire, Jean-Nic.
Bon, ben moi, en tout cas, là, je suis un fan. Là, j'adore regarder les vidéos, les reels qui mettent en vedette des joueurs qui sont assis chez eux avec toute leur famille puis qui reçoivent l'appel.
Ouais.
C'est vraiment cool. Là. Ça, là, là, je sais pas, continuer de vous filmer. C'est le fun de voir l'émotion des gros gars.
Ah oui, mais hein.
Avec la famille autour, puis ça crie, puis ça, c'est vraiment des beaux moments. Puis quand ils donnent
sauf,
le nom.
Sauf Quinion Mitchell.
Sauf Quinion Mitchell. Lui, il était dans le green room, au moins. Là,
ça en allait à l'abattoir, lui.
Quand ils sont chez eux, puis ils sont bien entourés, moi, je trouve ça cool. Puis les équipes aussi qui mettent les appels, qui font. Je trouve que c'est vraiment du bon insight. Merci Steph, merci à vous d'avoir été là encore cette semaine pour cette édition spéciale de la zone payante sur le repêchage. Et on se retrouve lors d'un prochain épisode plus tard cette année. Merci et à bientôt.